Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Timothée Rouvière.
Depuis le 7 octobre dernier et l'attaque du Hamas en Israël, le monde a les yeux rivés sur le Proche-Orient qui, une nouvelle fois, est plongé dans une barbarie infâme. Quand certains prennent position pour ou contre Israël, que nous dit l'Église? Comment réagir en tant que chrétien? On en parle ce matin dans votre émission Vivante Église. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir le frère Gilles Danroc, dominicain de la province de Toulouse. Bonjour frère Gilles.
Bonjour.
Et vous
bonjour
me faites un signe du doigt en me disant que nous avons aussi Dina Risque. Bonjour Dina.
Bonjour.
Merci à tous les deux d'avoir accepté mon invitation. Déjà, quelle a été votre première réaction d'homme et de femme, de chrétien, suite à cette attaque du 7 octobre qui nous a tous bouleversés?
Moi, quand j'ai appris la nouvelle, ça m'a donné la chair de poule, parce que je suis libanaise d'origine. Mes parents ont été en Égypte quand il y a eu, en 48, l'installation d'Israël en Palestine. Et ils ont vu aussi des familles palestiniennes arriver avec leurs valises. Au Liban, en 75, c'est suite à la révolte aussi de camps palestiniens qui étaient aux alentours de Beyrouth que cette guerre civile a éclaté et qui n'en finit pas donc aujourd'hui, puisque 50 ans après, nous sommes dans la même situation, et pire peut-être. Et de nouveau, je me suis dit, ça faisait quelque temps qu'on ne parlait plus tellement d'Israël et de Palestine. On était sur l'Ukraine et la Russie. Et on se disait, qu'est-ce qui se passe au fond là-bas? Mais bon, sans trop y prêter attention. Et là, je me dis, ça y est, ce n'est pas encore fini. On croyait avoir atteint, avec les différents accords qui avaient eu lieu avec Arafat, avec, etc., évoluer vers quelque chose. Mais là, ça y est, la plaie s'ouvre à nouveau. L'enfer recommence et encore... Voilà, c'est des peuples qui souffrent, des peuples qui sont malmenés et cette escalade de violence qu'on sent et de la part dans chacun des camps, prêts à aller dans une escalade, avec des gens qui sont assis sur leur fauteuil à tirer les manettes, alors ils observent ça de loin comme un jeu vidéo, mais c'est pas un jeu vidéo, c'est pas des pions qu'on bouge, ce sont des hommes, des femmes, des enfants qui vont avoir leur vie encore une fois détruite, malmenée. Et donc c'est vrai que ça me fait mal et que tous les jours, j'écoute, je veux savoir ce qui se passe, je regarde aussi ce qui se passe au Liban, on en parle moins, mais il se passe des choses aussi dans le Liban Sud. Et voilà, on a peur pour les gens qui sont là-bas, on a peur pour ces pays qui devraient être des pays de paix, là où est né le Christ, là où sont nées les grandes religions, un pays de grande ouverture, de grande hospitalité, et qui se retrouve à ce point à vivre l'enfer aujourd'hui pour beaucoup de gens, surtout pour les peuples, pas les dirigeants, mais les peuples. Voilà mon sentiment.
Frère Gilles.
Alors, mon premier mouvement, autant que je m'en souvienne avec intensité, et c'est l'excès de violence. C'est le fait que la première agression, celle du Hamas, était d'ailleurs, par la suite, je me suis rendu compte qu'elle est calculée, c'est une atteinte à la vie. Ils sont allés au kibbutz de Beherit, que je connais, ils sont allés à la nurserie, et ça a été filmé. Et donc, dès qu'on attaque la vie, il y a quelque chose qui est... On n'est même pas dans la guerre, on est ailleurs, on est dans quelque chose que je vais appeler, faute de mieux, la haine en action, et la haine qui est faite de telle façon qu'elle engendre la haine, c'est-à-dire le type d'agression va demander immédiatement, et c'est ce qui s'est passé, une réaction du même ordre qu'elle, c'est-à-dire c'est la haine appelle la haine, et en ce sens, ce qui s'est passé le 7 octobre est inscrit dans la mémoire maintenant blessée, mais non seulement des peuples qui habitent, des populations, des peuples qui habitent la terre de sainteté, la terre sainte, mais je crois que c'est une agression contre l'humanité. Et nous sommes hors de toute analyse rationnelle réellement efficace. Et il faut accepter aussi, en tant qu'être humain, et en tant que chrétien, de se dire qu'il y a des situations dans lesquelles nous sommes hors de la réflexion. Donc, gardons-nous de réfléchir trop vite à l'intérieur même de ce qui n'est pas rationnel. C'est ce que j'ai vécu aussi en Haïti, avec Port-au-Prince sous l'emprise des gangs. Là, il y a quelque chose d'assez spécifique, et le flot de paroles et d'analyses qui ont suivi le 7 octobre me semble pas adapté à ce premier état de fait. Nous sommes devant quelque chose qui nous demande une autre réaction que simplement essayer de trouver des explications. Parce que ces explications vont devenir des justifications, et cette guerre actuelle, qui n'est pas une guerre religieuse, trouve justement, et c'est ça qui interroge tous les chrétiens que nous sommes, et qui demande peut-être à l'Église aussi de dire une parole évangélique, hein, c'est que c'est l'humanité qui est attaquée dans ses racines de vie. Quand on décapite un bébé et qu'on le filme, il y a quelque chose qui dépasse de loin ce que nous sommes capables de comprendre. Et une guerre qui n'est en fait qu'une guerre classique de territoire, il faut habiter une terre, c'est l'Alsace, c'est la Lorraine de la guerre de 14, etc., va devenir une guerre autre chose. On va trouver des justifications religieuses et on va utiliser Dieu dans quelque chose où il est justement non seulement absent, mais il est en répulsion en tant que Dieu de voir ce que les hommes sont en train de faire.
Si je comprends bien, de toute façon, cette attaque, on le sait, elle était prévisible, elle était malheureusement attendue, mais c'est le sommet de violence, de haine, qui a atteint un palier supplémentaire le 7 octobre et depuis...
C'est-à-dire, je rejoins ce que dit Frère Gilles, l'attaque terroriste du Hamas, il faut appeler ça, c'est de la barbarie, c'est vraiment l'atteinte à la vie. Ils auraient voulu attaquer Israël, ils s'en seraient pris à une caserne, à des militaires... Où est la bravoure d'aller attaquer des enfants et quel courage ça représente d'attaquer des femmes, des enfants, des gens qui dorment dans, qu'on dérange. C'est pas ça la guerre. Donc là, c'est vrai, il y a une notion d'anti-humain, quelque chose qui, même s'ils le font au nom de Dieu, mais de quel Dieu parle-t-on, hein? C'est tout à fait, c'est de la barbarie. Mais c'est vrai que cet acte qui est vraiment le comble de la barbarie, va engendrer ce désir de vengeance, de colère, de répulsion, et c'est normal, on réagit avec ses tripes, on se dit, mais on a envie de réagir. Et c'est sûr que c'est le piège d'ailleurs dans lequel on risque de tomber, et Israël peut-être peut tomber là-dessus, c'est de rentrer dans cette surenchère de la violence, pour essayer de réparer cet excès, cette barbarie ignoble. Hein. Et c'est là où c'est le danger. Mais je crois que ça rejoint aussi tous les actes terroristes qu'on a connus jusque-là, où on s'attaquait à des gens non armés, qui étaient en train de manger, de danser, de faire des courses. Au Liban, je dois dire aussi qu'au début, ce n'était pas dans cette mesure-là, mais beaucoup de gens qui... On l'a arrêté en voiture et parce qu'il, sur la carte d'identité, on tuait sans... Voilà. Donc, je veux dire, c'était aussi une forme de vie sans que ça ait ces excès de raffinement de torture et de barbarie, mais quand même dans cet esprit d'anéantir l'autre parce qu'il représente quelqu'un que je n'aime pas, quelqu'un que je ne tolère pas, qui ne me ressemble pas et avec qui je ne veux pas vivre. Hein.
Donc, je pense vraiment que c'est... que c'est un tel excès que c'est un piège en même temps. Ouais. Et je pense que là, en tant que chrétiens, nous pouvons voir qu'il y a quelque chose de surhumain, d'une certaine manière, qui est en train de se passer, qui profite de la faiblesse humaine, quelle qu'elle soit, pour se répandre sous forme de terreur. Et l'histoire est pleine, effectivement, d'actes de terreur. On peut même cité de nombreux exemples, hélas, dans l'histoire. Et effectivement, ce qui est demandé là par, par le mal lui-même, ou le malin, comme on dit, traduit le Notre Père, délivre-nous du mal, si on prend le neutre, ou délivre-nous du malin, c'est la traduction orthodoxe d'ailleurs, eh bien, c'est qu'il veut, par de l'inhumain, fasciner et attirer dans son camp, dans son armée, j'allais dire, et attirer le plus possible de personnes qui vont multiplier la haine à l'infini. Et c'est comme ça, c'est ce que C.S. Lewis, Carl Lewis, aurait pu appeler la tactique du diable. C'est la multiplication. Il ne cherche pas à détruire, mais à multiplier, à nous enrôler. Alors, avec le Christ, avec Jésus, avec l'évangile que nous écoutons, que nous partageons régulièrement, entre autres le dimanche, qu'est-ce que nous pouvons dire par rapport à cette agression de l'humanité? C'est pas seulement même Israël. Et je voudrais citer une femme de ménage musulmane qui disait à des amis: ben, en tant que femme, je ne peux même pas accorder la moindre attention au Hamas, dans la mesure où il est allé décapiter des bébés. Toutes les femmes du monde qui ont porté un enfant, elles savent que ceci est un excès. Et que par ailleurs, si on est de tel camp, de tel clan, de quel peuple, de telle religion, on ne peut pas justifier ça. C'est de l'injustifiable, moi je crois, c'est ça. Alors, que faire, sinon reprendre cette demande du Notre Père, hein, délivre-nous du mal, mais surtout... aidons-nous les uns les autres à ne pas tomber dans le piège qui est en train de refermer ses mâchoires en ce moment sur le terrain, et sur Gaza en particulier, mais aussi sur l'ensemble des Palestiniens, etc., etc., avec une logique qui dépasse la loi du talion, qui dépasse l'entendement, la compréhension. Voilà, ma question, et peut-être la parole que l'Église peut donner, c'est d'essayer de dire que nous sommes devant de l'inhumain. Et devant de l'inhumain, que pouvons-nous dire? Nous n'avons qu'une réponse, me semble-t-il. Une réponse, vous allez voir, ce n'est pas une réponse par A plus B ou 2 plus 2 égale 4. C'est que devant le mal... Dieu a été crucifié. Or, il y a une parole de Jésus en croix qui est une lumière dans les ténèbres. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce qui se passe dans l'irrationalité actuelle en Terre Sainte, les hommes ne croient savoir ce qu'ils font. Ils ont des stratégies, ils ont toutes sortes de choses. En fait, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et quelle est la force de Jésus lui-même, la force résurrectionnelle dans la croix, si je puis dire, c'est de dire que le pardon qu'il ne proclame pas de lui-même, Père, il remet à Dieu cette situation complètement irrationnelle et haineuse, puisque c'est un innocent qui est condamné, qui est condamné donc injustement, enfin tout le processus qui a amené Jésus à la croix. Et il dit, puisqu'ils ne savent pas ce qu'ils font, il n'y a plus qu'un seul recours, qui est le recours au Père, même pas à lui.
C'est ce que le cardinal Pizzaballa, le patriarche latin de Jérusalem, dit. C'est sur la croix que Jésus a gagné, pas par les armes, pas par le pouvoir politique, pas par les grands moyens, pas en s'imposant. Il a gagné le monde en l'aimant. Comment on peut transposer justement cette phrase du cardinal Pizzaballa dans la situation actuelle entre Israël et le Hamas?
Eh bien, avant le cardinal, Saint Paul lui-même a dit dans la... la lettre aux Éphésiens, je crois que c'est au chapitre 2, deuxième, il dit « Sur la croix, Jésus a tué la haine ». C'est extrêmement fort comme parole. Vous savez, les paroles d'évangile, la révélation chrétienne, c'est rude. Il ne faut pas avoir dit, parce qu'on l'a entendu 10 fois, que c'est une parole, ma foi, qui passe. Non, c'est une parole sur laquelle on doit s'accrocher, parce qu'elle nous accroche. Tuer la haine, mais le vocabulaire de saint Paul, où sommes-nous, hein? Il a tué la haine, c'est-à-dire que sur la croix, il reçoit la haine du monde et en quelque sorte, par amour, l'encaisse pour qu'elle ne rebondisse pas en vengeance. Et c'est ça qui ouvre, à travers ses plaies, que saint Thomas l'apôtre va reconnaître le dimanche de la résurrection, enfin le dimanche où Jésus ressuscité lui apparaît, mets ton doigt, regarde mes plaies, elles sont là, notre Dieu est aujourd'hui plein de cicatrices. C'est fou de dire ça. Notre Dieu est plein de cicatrices. On le voit tout beau, oui. Il y a des représentations, etc. Il est couturé de cicatrices. Et saint Thomas a touché, l'apôtre Thomas a touché, a mis sa main dans son côté, d'où a jailli l'eau et le sang qui ont été interprétés comme justement une sorte de rivière d'amour qui irrigue maintenant la terre. Alors, je crois qu'il faut partir de cette radicalité de la croix et de l'espérance de la résurrection pour commencer quelque chose aujourd'hui par rapport à la Terre Sainte. Je ne sais pas ce que...
C'est vrai, c'est-à-dire que tout à fait, c'est l'espérance, en tout cas, qui porte les chrétiens, et la lecture que vous en faites, frère Gilles, tout à fait, c'est une crucifixion, c'est un vendredi saint, et la résurrection est derrière. N'empêche qu'en attendant, nous sommes dans le déjà là et pas encore. Hein. On sait que le salut est là, mais on est encore en train de traverser ce vendredi saint. Et pour les gens qui sont là-bas, voilà, qui sont encore sous les bombes, qui doivent penser à leur survie, parfois à se défendre et à attaquer pour se défendre aussi, qui doivent se protéger, qui doivent quitter leur maison, qui sont sur les routes. Enfin, c'est quand même des souffrances énormes. Et c'est vrai que les chrétiens sont portés par l'espérance et en même temps ce qu'on peut souhaiter actuellement, c'est vraiment que se lèvent des artisans de paix, que se lèvent des personnes qui apportent des paroles d'espérance, des paroles de bon sens, des paroles qui permettent un projet réaliste aussi, parce qu'il ne faut pas qu'on nous taxe aussi d'utopistes et de... Voilà. Une chose est de vivre de l'espérance, mais même en tant que chrétien, il faut aussi qu'elle s'incarne au moins dans des petites choses pour qu'on s'appuie dessus pour continuer d'avancer. Il faut qu'il y ait ces pierres d'achoppement où on met un premier pas pour avancer aussi un deuxième. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est... Alors, je vais être plus réaliste dans le sens qu'on espère que la diplomatie fait quelque chose, qu'il y ait des gens qu'on... Voilà, c'est pas ceux qui crient le plus qui font le plus, mais qu'on n'entende pas simplement que le bruit des bombardements, mais qu'il y ait des gens, j'espère, en coulisses des deux côtés qui essayent de trouver des arrangements et de pas attiser la haine, etc. C'est qu'on a besoin concrètement d'hommes providentiels qui se lèvent aussi, qui osent dire une parole, qui osent proposer quelque chose. C'est dans ce sens où cette espérance doit aussi s'appuyer sur des jalons, quelque chose aussi qui donne, qui fortifie cette espérance. Parce que du coup, je termine par là, ceux qui partent sur les routes... je vous prends un exemple. Au Liban Sud, il y a des villages chrétiens qui sont en train de se vider. Mais les gens ont peur de partir, parce qu'ils se disent, si on part, peut-être qu'on ne reviendra plus. Est-ce que c'est ça l'espérance, aller planter sa tente ailleurs et laisser quelque part le mal, je ne sais pas, d'autres s'installer. Voilà. Est-ce que c'est ça? Parce que là aussi, il y a des questions. Si je veux aller vers l'espérance, si je veux aller être artisan de paix, quel chemin je vais suivre? Est-ce que c'est en restant chez moi, en risquant de me faire assassiner? Ou est-ce que je pars et je prends le risque de ne plus revenir et je vais planter ma tente ailleurs? Enfin, c'est des questions que tout un chacun va se poser. Et la réponse, même si on a la foi, même si on est plein d'espérance, et Dieu sait que les chrétiens d'Orient ont la foi chevillée au corps, c'est des questions pas faciles, et la réponse ne tombe pas comme ça. Donc, il y a tout un discernement, et en même temps, il faut vivre, on est un peu acculé, on est dans l'urgence. Pour certains, c'est une urgence vitale. De savoir ce qu'il faut faire et le faire au moment même. Et en même temps, il y a ceux qui vont peut-être prendre le temps de bâtir quelque chose pour que une solution de paix, de respect, de vivre ensemble, de voilà ces questions-là.
Oui, mais merci Dina, parce que ce que je voulais dire, c'était dire que la croix et la résurrection sont l'envers et l'endroit d'un même événement. Mmh. Je ne mets pas de distance. Oui, nous serions aujourd'hui dans la croix et nous espérerions une résurrection. La croix et la résurrection de Jésus, c'est un événement qui fonde notre histoire. Donc, mais en revanche, bien sûr que j'accueille et que nous devons accueillir l'interrogation souffrante de tous ceux qui sont en première ligne de la guerre. La réflexion ou la parole d'espérance, c'est pas pour la fin des temps, c'est même pas l'espérance d'une vie au-delà de la mort. L'espérance, c'est aujourd'hui. Quelle est l'espérance que nous pouvons avoir aujourd'hui? Et puis, je me mets aussi dans la situation de quelqu'un, d'un chrétien de Toulouse, qui apprend à la radio une catastrophe de ce genre en octobre et qui doit prendre son café, sa douche, aller au travail ou s'occuper des enfants. Et c'est tellement disproportionné entre ce qu'on entend qui se passe ailleurs et ce que l'on vit dans la vie quotidienne et aussi l'intensité de la haine et le fait qu'on doit se débrouiller à Gaza pour trouver des médicaments, apporter quelqu'un à l'hôpital, enfin dans l'urgence, il y a aussi une disproportion qui est celle de l'énormité de l'agression et de la vie quotidienne des gens. Et c'est là que je me dis, nous sommes tentés, par exemple à Toulouse, de baisser les bras devant les grands problèmes de l'humanité. Réchauffement climatique, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que c'est simplement mettre laver mon pot de yaourt? Non. C'est tellement disproportionné que c'est là, à mon avis, que notre recours premier, c'est l'Évangile. C'est pour ça que je disais, la réponse de Dieu, ça a été la croix. Mais la croix n'a pas apporté la mort, mais a apporté la vie. Et c'est cette vie-là qui motive notre espérance, mais non pas une espérance seulement dans le très long terme ou dans l'au-delà, mais une espérance aujourd'hui. Et je me dis exactement ce que vous avez dit tout à l'heure. Comment puis-je être aujourd'hui, ici à Toulouse, un artisan de paix? Et comment, aujourd'hui, je peux me poser la question centrale, est-ce que je reçois la paix? Est-ce que je la fais fructifier en moi? Est-ce que je n'ai pas des coins de haine possibles ou déjà exercés dans mon histoire, dans une histoire d'héritage, dans une histoire de je ne sais pas quoi? Mais commencer par quelque chose et non pas baisser les bras en premier. Et peu à peu, comment ne pas rêver que l'Église est un peuple, jusqu'aux extrémités de la terre, un peuple d'artisans de paix? Et que la parole de l'Église, c'est de dire à tous ses membres, à tous ses fidèles, à tous les baptisés, à tous les chrétiens, à tous ceux même qui sont attirés par un Dieu qui est amour, devenez artisans de paix. Et de proche en proche, soyez solidaires des artisans de paix qui sont sur place en première ligne et qui risquent leur vie. Et vous avez des groupes de femmes musulmanes, chrétiennes et juives qui manifeste tous les jours en s'habillant en blanc, un peu comme les maires de la place de Mai en Argentine, et qui simplement, par leur existence, sur place, dans la violence, disent « il y a autre chose ». Donc, dire qu'il y a autre chose, voilà, c'est surtout ça. Nous ne sommes pas ni dans la haine, ni dans la vengeance. Il faut nous tenir, tenons-nous, et tenons-nous les uns les autres, on va céder. Si là, vous êtes devant un problème, par exemple, d'une haine dans une famille, eh bien, cherchons aujourd'hui comment faire pour essayer de trouver des appuis. Et voilà, hier, j'étais dans la journée pour la justice restaurative, et on a vu ce film, Les visages.
Je verrai toujours vos visages.
Je verrai toujours vos visages. Où on essaye de mettre ensemble des criminels, enfin des auteurs et des victimes pour qu'elles puissent enfin se regarder et se parler. Et ça change toute la vie. Je dis, être artisan de paix, c'est aussi ça. Et je suis sûr que c'est ça qui est le terrain sur lequel les graines de violence et de vengeance ne peuvent plus pousser. Et c'est un... Voilà, c'est un petit peu cette image-là que... Excusez-moi de le dire avec beaucoup de passion, mais...
C'est sûr que ces conflits qu'on connaît, ces haines, enfin cette barbarie, tout ce qu'on a connu depuis quand même un certain nombre d'années, ça nous renvoie aussi à notre propre vie, notre propre existence, notre... propre manière d'être au monde et la manière... Et on se dit, on réalise comment le mal engendre le mal et que, comment contrer cette spirale de violence. Et c'est vrai qu'il faut commencer déjà par regarder comment nous vivons, comment nous sommes artisans de paix, comment nous pardonnons, comment nous demandons à être pardonnés aussi. Et c'est vrai que... Et c'est un peu le levain dans la pâte. Hein, c'est quelque chose qui peut faire tache d'huile. Parce que... ça nous interroge. On voit bien là comment, on le disait tout à l'heure, ce côté un peu inhumain, diabolique un peu de la haine qui nous entraîne dans cette spirale. Elle a vite fait de nous entraîner et que ça peut éclater. Et que nous, on a nous interrogé comment on peut dire stop à ça. Comment on peut contrer ce malin. Et c'est vrai que ça commence chacun pour soi, quoi, déjà. Enfin, chacun pour soi, je veux dire, chacun dans sa propre vie, ses relations, sa famille, son pays, etc. C'est important de... Parce que du coup, on aura aussi une... Peut-être qu'on sera aussi témoin, même sans le chercher, de cette forme de paix, de vivre avec, de respect, de toutes ces valeurs un peu... Toutes ces valeurs évangéliques et aussi ces valeurs d'humanité. C'est vrai que ça commence par là, ça commence par là.
Oui, mais si ça commence par là, avec l'Évangile, avec saint Paul, avec toute cette richesse de vie qui nous est proposée, c'est que il y a en nous un potentiel de solidarité avec ceux qui sont en première ligne et qui risquent leur peau. Comment essayer par toutes sortes de réseaux? Moi, chez mes frères qui sont à Jérusalem, on essaye, on crée des réseaux, on se donne de l'information. Vous avez la paroisse catholique de Gaza, qui est à côté de l'hôpital, qui est dans la tenaille. On peut avoir des informations, on peut leur faire passer encore quelques messages. Il y a des choses, je veux dire, mais être attentif à créer cette solidarité de la paix. Et c'est là qu'on aura de la force, parce que justement ceux qui sont dans l'épicentre du cyclone, de la violence, ben, s'ils savent qu'ils sont soutenus d'une manière ou d'une autre, et par la prière, et par les réseaux, mais il y a encore quelque chose de plus que je vois dans... cette demande forte de Jésus d'être bienheureux. Comment être bienheureux dans cette souffrance, au milieu de tout ça? les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. C'est quand même pas rien comme. Et en plus, c'est le discours programme de Jésus au début de sa prédication publique. Donc voilà, il nous appelle et il appelle l'humanité à ce bonheur-là. Eh bien, devant, voilà, première chose, quand ça excède par haine, avoir le recours à l'évangile. Là, on est en position de création de cette solidarité. Quand on est dans la lumière de l'évangile, on sait que partout, et est-ce que l'Église n'a pas réveillé ça? Un peuple, vous vous rendez compte qu'un peuple d'1,3 milliard personnes qui se lève et qui dit « nous voulons la paix, nous faisons la paix, nous sommes des médiateurs de paix, nous... » Voilà, bon. Que pouvons-nous exprimer, faire surgir? Enfin, c'est ce que... Dans les paroisses, dans les groupes, dans... à radio présence, etc., entre nous, cette espèce de soif de paix, de porter la paix. Après tout, à la fin de la messe, on dit « allez dans la paix du Christ ». Alors, bon, qu'est-ce que je fais quand j'ai toutes ces nouvelles? Mais il y a une dimension supplémentaire. Là, je m'appuierai sur ce que dit le pape François, qui a été rappelé dans l'événement du cardinal Saliège à la cathédrale Saint-Étienne. La Troisième Guerre mondiale a commencé par morceaux. L'embrasement de la violence en terre de sainteté, c'est un gros morceau. À commencer par la Syrie, il y a l'Ukraine, il y a le Yémen, enfin il y a plusieurs
Oui, voyez, oui.
Et il va plus loin dans cette question des artisans de paix. Et il dit c'est parce que une guerre mondiale naît de la mauvaise résolution de la guerre mondiale précédente. Tous les historiens ont analysé que la différence entre l'armistice de 1918 et le traité de paix de Paris a créé les conditions que la France a voulu de mettre l'Allemagne à genoux. Du coup, le pouvoir était à ramasser et Hitler l'a fait, les nazis l'ont fait et on voit l'embrasement que ça a été. On voit aussi comment la révolution de 1917... ça a été fait, le pouvoir était à ramasser, le tsar n'avait plus aucun pouvoir, etc., aucune crédibilité. Alors je me dis, mais est-ce que la Shoah n'a pas, qui est une affaire européenne, n'est pas aujourd'hui un des facteurs déclencheurs à retardement de cette Troisième Guerre mondiale? Et là, nous sommes devant une responsabilité européenne, et cette responsabilité européenne, est-ce que nous n'avons pas à exercer? Et l'Église, parmi d'autres, force de paix, quelque chose à dire. Il y a de la part de la communauté internationale, et l'Église est internationale, justement, elle a quelque chose à apporter aujourd'hui à ce qui peut être un foyer déclencheur d'une aggravation de la Troisième Guerre mondiale. Je me pose aussi ce genre de questions. Alors là, je reprends la rationalité que la haine l'histoire nous faisait sortir, mais l'histoire...
Et la politique, oui, ça interroge. Et là, on rentre dans le pourquoi de ces événements. Qu'est-ce qui permet... Qu'est-ce qui nous a fait, qu'est-ce qui a fait que cet événement a pu avoir lieu à 7 octobre en 2023? Et c'est vrai qu'on ne peut pas non plus le regarder sans regarder l'histoire. Hein. C'est important d'analyser d'où ça vient. Et c'est vrai que, oui, et là, quand on regarde les responsabilités, elle est mondiale, la responsabilité.
Absolument.
Tout à fait.
Absolument.
Et comme quoi, C'est aussi tout ce qu'on... Et c'est là où on voit aussi, si on reprend une valeur évangélique, nous sommes tous frères et un seul corps, et quand un membre s'ouvre ou un membre et fait bien. Une bêtise, ça rejaillit sur, infini, sur le corps tout entier ou sur d'autres membres
tout
du corps. Tout ce qu'on fait, c'est un peu ce qu'on appelle aussi l'effet papillon. Tout ce qu'on a fait à un moment ou à une chose, ça rejaillit. Tout est lié. On revient à... Et ce qu'on a fait 50 ans avant, etc., les décisions qu'on a prises ont un impact 50 ans après, et on voit bien. Mais encore une fois, ça ne ça justifie pas le niveau de haine, de barbarie, parce qu'heureusement, à chaque fois, on peut réagir et si on est contré ce mal. Mais malheureusement, parfois, il est plus fort que la volonté de faire le bien. Et c'est vrai que c'est important, on ne peut pas s'empêcher de cette analyse politique, historique. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais aussi de... Il faut parler la langue que les gens connaissent, c'est la politique, la diplomatie, les réseaux, enfin les moyens, les vecteurs qu'on a pour agir sur une situation donnée.
Voilà. Si je pouvais le résumer, devant la haine, ayons recours à de la lumière, c'est l'évangile. Mais l'évangile, foi et raison, nous renvoie à d'autres formes de rationalité qui sont éclairées par l'Évangile et qui font que notre préoccupation première est la paix. C'est en sens, vous voyez, que je fais
ce
schéma.
C'est le projet, voilà. C'est un projet de paix. Et ce n'est pas pour un projet de violence, d'occupation, de pouvoir. C'est le projet de paix que tout le monde... a le droit de vivre sur cette terre.
Et oui, et c'est justement quand on retourne éclairé par l'Évangile, moi je crois si l'Église a quelque chose à dire, c'est ça. Éclairé par l'Évangile, on voit très bien que c'est une guerre qui n'est pas religieuse et que c'est notre tâche de décrypter et d'annoncer c'est une guerre de terrain.
Oui, tout à fait.
Il y a un territoire que, alors, en 1947-48, mais c'est déjà dans la déclaration Balfour de 1917, on peut faire toutes sortes d'analyses, mais il y a un territoire et deux peuples, un qui était là, un qui est venu après les événements de la Deuxième Guerre mondiale. Comment est-il possible de vivre là ? Dans un peuple, dans les conditions de vie d'un peuple. C'est vers ça, c'est vers ça que nous devons aller par ce recours à la raison historique, diplomatique, etc., et qui est une information, entre autres, des chrétiens, si nous sommes là, qui soit vraiment conséquente pour dire que jusqu'à hors de cette visée de paix, nous n'avons pas à prendre parti. Parce que parti, c'est partisan. Et nous ne sommes pas dans quelque chose qui se renvoie à la violence et qui veut, c'est là le piège, qui veut une violence sans fin. Parce que même si Gaza est détruite par les bombes ou les tanks, si vous voulez, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, vous aurez tous les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants qui auront la morsure de la blessure du 7 octobre. Et qui vont eux-mêmes, 10 ans après, 20 ans après, 30 ans après, créer une nouvelle situation de 4e guerre mondiale. Donc c'est vous voyez c'est tout ce que j'essaye de mettre en mouvement,
en tout cas on le sait, politique, idéologique et de territoire, c'est ce qu'on retiendra en tout cas.
Mais notre réponse c'est quand même l'évangile.
Mais notre réponse reste l'évangile et on terminera là-dessus. C'est déjà la fin de cette émission. Merci beaucoup à tous les deux de votre éclairage.
Merci à vous.
Merci à vous.
Si vous souhaitez réécouter cette émission, elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet www.radioprésence.com. On prie bien pour tous nos amis palestiniens, toutes les personnes qui sont à Gaza et tous les Israéliens et même
les otages.
Et les otages aussi, et toutes les personnes aussi qui sont impactées par ce conflit. On pense notamment à nos amis libanais qui vivent des choses difficiles.
Et la paroisse de Gaza.
Et la paroisse de Gaza.
Qui est menacée continuellement.
Et on ne pourra pas citer tout le monde, mais Ils sont tous dans nos prières, en tout cas. Merci de votre écoute. Passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.